Nous sommes au mercredi 14 février de l'année de grâce 2024. Il sonne 11h, passé de quelques instants. Et vous comprenez sans doute que c'est l'heure de l'émission Club de la Presse sur votre radio. Et nous sommes au troisième numéro alors de cette émission Club de la Presse. La mise en onde de l'émission de ce jour est assurée par Michel Vitok-Betomega. Comme toujours, Jérôme Dakoucha assure la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Lossou. Vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Le Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités, bien sûr. Alors, confrères journalistes en studio avec moi, Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que ça va bien.
Oui, comme poisson dans l'eau, encore qu'aujourd'hui, pour les chrétiens catholiques, c'est le début donc, du carême. Et donc et pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous les Togolais, et c'est la fête de Saint-Valentin qu'il faut célébrer avec responsabilité. Ça, c'est important, j'insiste là-dessus, qu'il faut célébrer.
Comment ça se célèbre avec responsabilité?
Oui, avec responsabilité, parce qu'en fait, aujourd'hui, nous avons tendance donc à tronquer l'histoire, à galvauder les choses, à perdre de l'énergie. Pour donc les tout heureux, oui, il faut se retrouver, prendre un pot, et après, on se retrouve à deux, quelque part. Bon, suivez mon regard. Et donc, c'est pourquoi je dis, il faut célébrer ça avec responsabilité, oui. Tu peux faire plaisir, donc, à ta compagne, à ton épouse, à ton conjoint, et vice-versa. Mais la Saint-Valentin ne se limite pas à des... Excusez-moi, le terme était à des débats sexuels.
D'accord, alors, merci beaucoup.
Des débats sexuels, voilà.
Oui, voilà. Abassi Saka, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui sont en train de nous suivre en ce moment.
Journée de deux événements. Il y a Sylvestre alors qui le dit, Saint-Valentin et aussi
mercredi des cendres.
Oui, je pense que quand on parle, la Saint-Valentin n'a plus d'importance aux yeux de mercredi des cendres. C'est le jour où le carême catholique commence. Donc, il faut accorder plus d'importance à cette journée de carême. Comment la préparer au lieu de se fier aux frivolités qu'on appelle la Saint-Valentin. En principe, la Saint-Valentin, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour les hommes mariés. Mais aujourd'hui, on a galvaudé cette journée et on nous dit que Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. La fête de l'amour, ce n'est pas pour tout le monde. Pas pour les célibataires qui ont transformé cette histoire de Saint-Valentin.
Mais les célibataires ont besoin aussi de l'amour.
Ils ont besoin de l'amour. Mais c'est l'histoire, quand vous prenez l'histoire de cette Saint-Valentin, vous comprendrez que ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour cela que j'ai dit. Il faut plutôt privilégier le mercredi des cendres, jour du début du carême, pour les chrétiens, que d'aller vers les frivolités.
Et c'est plus simple comme ça.
C'est plus simple comme ça.
Simple et sain.
Sain.
D'accord. Alors, Abel, bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour,
santé, éducation dans les kiosques. Santé, éducation dans les kiosques. Alors ce matin, on comprend tout simplement quand déjà vous êtes annoncé, on écoute votre voix, on comprend que santé, éducation, kiosque. Donc on va parler alors des sujets dont vous avez parlé alors déjà dans votre journal aujourd'hui. Alors santé, éducation, vous écrivez ce matin à la une de votre journal, 6 pratiques pour préserver sa santé au bureau. Alors, quelles sont ces 6 pratiques? On a besoin alors d'avoir une bonne santé, surtout au bureau.
Exactement. Nous faisons un focus ce matin sur la santé au travail. C'est important de ne pas négliger la santé au travail parce que nous travaillons dans les entreprises, nous travaillons dans des bureaux, dans les services. Et en fait, d'abord, nous invitons tous ceux qui travaillent, employés dans les bureaux, dans les services, à se procurer ce journal, parce que c'est vraiment important. Pourquoi ? Vous savez, c'est pas très aisé ni facile de maintenir une santé et optimale quand nous travaillons dans les bureaux. Et pourquoi? Parce que entre la fatigue, entre le stress, entre les frustrations peut-être familiales, et entre les mauvaises conditions de travail, et on voit que notre santé également en pâtit. Et beaucoup n'arrivent pas à adopter ces bonnes habitudes de travail quand ils sont en train de travailler. Vous allez voir certains à longueur de journée qui ne font que consommer, par exemple, du café et favoriser le grignotage. Attention, et c'est pas bon parce que nous avons énuméré un certain nombre de pratiques quotidiennes qui peuvent nous permettre, quand on travaille, quand on est au bureau, qui peuvent nous permettre d'avoir une santé optimale. Je donne un exemple. On peut par exemple amener notre petit déjeuner au bureau.
Le petit déjeuner, on l'amène
pas au bureau. Mais en fait, le déjeuner, par exemple, au bureau. En fait, pour éviter, mais pour limiter les grignotages. Vous allez voir dans certains bureaux, dans certains services, des hauts cadres, des employés qui grignotent des gâteaux salés, des biscuits, du bout au coin.
Ça se sent plus chez les femmes.
Ah bon, je sais pas. Tout le monde. Hein. Du bout au coin, des biscuits salés. Le grignotage n'est pas bon. C'est ce qu'on voit. Donc, et même si il faut aussi commander des plats, des fast-food, on recommande toujours de les accompagner de fruits et légumes. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est éviter la sédentarité. Il faut toujours se lever. Il faut se lever, il faut marcher, il faut faire des breaks. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude qui dit que rester assis plus de 8 heures par jour augmente de 15% le risque de mortalité. Ça, c'est une étude internationale. Donc, il faut qu'on s'accorde du temps. Il faut qu'on fasse des pauses. Si vous avez des escaliers au bureau, faites des montées, des descentes, marchez. Et également, il est encore prouvé qu'une étude publiée dans le journal Le Monde, que nous devions faire une pause de 17 minutes, toutes les 52 minutes de travail, pour être le plus efficace possible.
Mais est-ce que vous pensez que c'est pratique?
En fait, ça doit rentrer dans les habitudes, en réalité. Petit à petit, ça doit rentrer dans les habitudes. On doit beaucoup aussi boire. En fait, s'hydrater suffisamment. Et l'un des cas importants qu'on a souligné dans cet article, l'un des aspects importants, c'est de toujours garder le sourire.
Et garder service.
Voilà, le sourire et la positivité.
Il y a toujours aussi le stress du
service. Voilà, c'est pas évident. Exactement, comme Benny le dit, c'est pas évident, mais en fait, c'est un facteur de santé également. Le sourire et cette positivité qu'on doit dégager. Parce que pourquoi en fait? Vous allez voir dans certains bureaux, dans certains services, les gens viennent frustrés, serrent la mine, ils s'isolent.
Et ils ont leur raison.
Ils sont dans leur coin. Des collègues qui ne se parlent pas, des collègues qui ne se saluent pas. L'ambiance, en fait, dans le bureau, dans le service, bon, en fait, est mauvaise, quoi. Donc, tout ça, en réalité, ce sont des facteurs qui entraînent des maladies psychiques à long terme et qui peuvent découler aussi des maladies.
Et ça ne favorise même pas aussi la bonne ambiance dans le service.
Donc, nous mettons un accent sur ces pratiques-là qui peuvent rentrer dans la routine, qui peuvent permettre à l'employé de s'épanouir au bureau et d'avoir une santé optimale. Donc, c'est aussi une invite aux acteurs de la société civile, aux acteurs étatiques également, de penser peut-être de devoir d'élaborer des stratégies, des politiques de santé au travail.
Alors, ces pratiques, c'est à retrouver alors dans votre journal Santé Éducation de ce jour, de ce mercredi, bien évidemment. Alors, vous parliez entre temps alors des fruits à prendre à la fin alors de chaque repas ou quand on termine le déjeuner. Et vous avez dit qu'il est important quand même de prendre certains fruits. Et vous parlez même d'ailleurs aussi des fruits aujourd'hui dans votre journal. Et vous parlez de 4 fruits pour une bonne tension artérielle.
Oui, une bonne tension artérielle. Ça, on le sait bien que l'hypertension, c'est aujourd'hui l'ennemi numéro 1. L'hypertension qui entraîne beaucoup de maladies cardiovasculaires, insuffisance cardiaque et AVC. Et aujourd'hui, selon les études, le Togo, on est à 30% de la population qui est hypertendue. Donc,
Et
ça devient récurrent et inquiétant.
C'est ça. Et c'est alarmant. Donc, il faut toujours informer, il faut toujours sensibiliser sur cette maladie. Donc, en commençant d'abord par notre bonne alimentation. Manger équilibré, manger varié, manger sain. Et on néglige surtout les fruits et légumes. On néglige. On mange salé, on mange gras, on mange sucré, on oublie les fruits et légumes. Donc, on a des fruits sur le marché, on a des fruits de saison qu'on doit favoriser pour que nous ayons une bonne tension artérielle.
Abel, vous vous intéressez aussi à ce phénomène qui, je ne sais pas si c'est naturel chez l'homme, vous parlez alors du ronflement. C'est vrai, quand nous dormons, d'habitude, on ronfle. Et vous parlez du ronflement et vous nous proposez un remède pour réduire le ronflement.
Oui, exactement. On croit que c'est banal, on croit que c'est un malaise qui est banal, mais le ronflement peut cacher une pathologie, si on ne le sait pas. Donc,
mais des fois, des gens parlent alors de la fatigue. Et quand on est très fatigué, il arrive quand même qu'on se donne au ronflement.
Oui, exactement. Ça dit, une fatigue excessive peut amener au ronflement. Mais il faut comprendre d'abord que le ronflement peut cacher une pathologie, une maladie. Et quand ça devient récurrent, attention, le ronflement a des conséquences graves sur la santé. Surtout mentale et psychique. D'abord, quand on est ronfleur, ou bien quand on ronfle, en réalité, on peut comprendre que on peut développer des maladies cardiovasculaires. Donc, plusieurs études démontrent également que le ronflement peut avoir un impact également sur le cerveau et déboucher vers, ou entraîner une maladie d'Alzheimer. Ça, c'est plusieurs études qui le disent. Donc, la perte de vigilance et une perte de concentration, notre réactivité est réduite. Donc, toutes ces conséquences-là, attention, ça nuit au cerveau. Donc, pour réduire les risques, pour réduire ces crises, donc, on peut poser une recette dans le journal qui peut aider ceux qui sont déjà victimes. Et surtout, il faut consulter un médecin.
Consulter un médecin, c'est vraiment important. Alors, c'est des recettes qu'on peut facilement trouver dans votre journal aujourd'hui. Et c'est à combien?
C'est à 1000 francs. C'est à 1000 francs avec la version papier. Et à 500 francs la version numérique. Sur notre site www.centre-education.tg. Si vous voulez nous contacter, nos numéros sont sur les 96 14 97 97. Nous sommes aussi au 91 79 47 07.
Et le journal est depuis hier dans les bacs.
Exactement.
D'accord. Merci Abel d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de te recevoir pour nous parler de la santé et éducation dans cette émission. Alors, parlons éducation. Allons dans les écoles et écoles et nous allons recevoir une invitée. Une invitée, c'est Madame Colette Kafoui Adjonyo. Madame, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour auditeurs, auditrices de Canal FM.
Madame, vous êtes la présidente du comité d'organisation de la 3e édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette semaine qui est sa 3e édition, bien évidemment, telle que je le disais, et c'est du 15 au 24 février prochain. Alors, madame, si nous prenons alors les éditions, ou du moins quand on prend même la première édition de cet événement, alors qu'est-ce qui a motivé le ministère? Qu'est-ce qui a motivé? Quelle est l'explication que vous donnez surtout à l'instauration alors de cette semaine?
Merci pour cette occasion que vous nous donnez pour la troisième fois de parler donc du processus de célébration de la 3e édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je voudrais dire que il nous souvient que lorsque le gouvernement s'est engagé à créer un ministère dédié à l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'était dans l'intention de nourrir le marché du travail avec une main-d'œuvre qualifiée et adaptée. Alors, le temps est passé, les différents documents de politique éducative ont tracé la voie et des diagnostics ont été faits. Et puis, nous avons constaté que malgré tous ces efforts et tout ce que le gouvernement fait, il reste du travail, beaucoup de choses à faire pour que le ministère puisse répondre davantage à sa mission et aux attributions qui lui sont dévolues. Donc, nous avons constaté que le sous-secteur est pratiquement pas connu ou peu connu du public. Nous avons également constaté que la population d'apprenants et d'apprenantes qui quittent le secondaire 1 vers le secondaire 2, toute cette population, l'enseignement technique et la formation professionnelle n'accueillait que 6%. Et la question des filles, elle est percutante. Les filles étaient pratiquement absentes dans les filières industrielles, technologiques et agro-sylvopastorales. La communication n'était pas intense autour du sous-secteur pour permettre au public d'avoir des informations sur les offres de formation, les opportunités et puis l'insertion professionnelle. Donc tout ce package-là constituait une problématique pour laquelle il faut trouver des solutions idoines, de sorte que le ministère chargé de l'enseignement technique puisse répondre davantage aux missions et attributions qui lui sont attribuées.
Alors, et finalement, il y a deux éditions qui sont déjà passées. Oui. Quel est le bilan qu'on peut établir maintenant de ces deux bilans passés?
Bien, alors, les deux éditions passées, je voudrais dire aussi que l'initiative, vous convenez avec moi, bien en phase avec tous les documents de politique éducative et particulièrement la feuille de route gouvernementale. Dans les projets prioritaires 9 et 10 qui parlent de la qualité, de la formation, de l'accès et de l'insertion professionnelle. Donc, des deux éditions passées, la première édition en 2022 et la deuxième édition en 2023, nous pouvons, sans être peut-être exhaustive, présenter quelques éléments bilan qui ont balisé la voie vers la troisième édition. Et donc, nous pouvons parler, par exemple, de l'augmentation des effectifs. Les sensibilisations qui ont été faites lors des deux éditions ont porté leurs fruits et l'engouement a été palpable, observable et observé et dans les établissements et centres d'enseignement technique et de formation professionnelle. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les filières industrielles, autrefois, par erreur, réservées aux garçons, vous allez voir dans les séries tertiaires, dans les filières tertiaires, 100 filles et puis 0 garçons, par exemple. Et dans les filières industrielles, 45 garçons et 0 filles. Aujourd'hui, les filles sont présentes, même si je reconnais que, ou nous reconnaissons que, il y a encore du travail à faire. Et voilà pourquoi nous continuons ces actions-là. À l'issue de ces deux éditions, la formation en alternance a été effective, même si c'est pas encore, ça n'a pas emporté tous les établissements et centres de formation. Nous avons eu bonne majorité de nos établissements qui sont dans la dynamique de la formation en alternance aujourd'hui, vu que depuis 2002, le ministère chargé de l'enseignement technique dispose d'une loi d'orientation qui, dans une de ses dispositions, mentionne clairement que au Togo, l'option de la formation professionnelle est la formation en alternance. Donc, disons que la mise en œuvre a tardé, mais dit-on, vaut mieux tard que jamais. Ces deux éditions de la semaine de l'enseignement technique ont permis d'entrer de plein pied dans la formation en alternance, ce qui, par ricochet, permet de gérer les flux, puisque l'engouement a été observé après les deux éditions. Donc, l'alternance permet de gérer les flux, de sorte qu'un établissement qui avait 100 apprenants ou apprenantes est en mesure de gérer 200. Dans la mesure où la formation en alternance est sur deux lieux de formation, lorsqu'une partie est en entreprise, l'autre partie est à l'école, et après, ceux qui sont ou celles qui sont à l'école vont en entreprise, ça permet de gérer un grand effectif, ce qui n'était pas le cas avant. Nous pouvons mentionner également la mise en œuvre effective du placement des apprenants et apprenantes en stage en milieu professionnel, nous sommes dans la dynamique de ce placement des apprenants et apprenantes en stage en milieu professionnel. Tout ceci pour faciliter l'insertion professionnelle des sortants. Parce que, en fait, in fine, la formation, c'est pour l'insertion. L'insertion, c'est soit la personne s'installe pour son propre compte ou bien trouve un emploi salarié. Donc, lorsque la formation est de qualité, et je voudrais préciser que l'alternance et le placement en stage en milieu professionnel concourent à améliorer sensiblement la qualité de la formation également. Nous pouvons mentionner également la visibilité et l'attractivité du sous-secteur parce qu'aujourd'hui, le citoyen lambda sait qu'un ministère est dédié à l'enseignement technique. Et lorsque vous lui posez des questions, il est quand même en mesure de dire quelque chose, ce qui n'était pas également le cas avant.
D'accord. Je sais que vous avez réalisé beaucoup de choses dans les deux dernières éditions. Oui. Hein. Donc, alors, dites-nous, aujourd'hui, c'est vrai, je rappelle que c'est du 15 au 24 février que cette troisième édition aura lieu, évidemment. Alors, quelles sont les grandes activités qui sont au menu alors de cette édition?
Les grandes activités, je peux dire que les activités ont déjà commencé avant le lancement ou le démarrage prévu, parce qu'il faut quand même annoncer les couleurs. Donc, nous avons fait de la caravane, nous avons fait la course pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous avons fait des conférences de presse pour solliciter l'appui et l'accompagnement des professionnels des médias dans la réalisation de cette activité. Nous continuons les sensibilisations, les journées portes ouvertes. Le concours talent qui s'est déroulé lors des deux éditions passées se poursuit. Il y aura également le concours talent qui permet à nos jeunes apprenants et apprenantes et même aux formateurs et formatrices de faire valoir leur talent. Vous savez, autre chose est d'être formé, mais quand vous êtes à l'œuvre, c'est toujours différent. Ces deux concours passés lors des deux éditions ont permis de dégager 50 lauréats par édition. Ce sera la même chose également cette année pour permettre aux talents de se faire valoir, comme je venais de le dire. Je voudrais préciser que le lancement officiel est prévu à Dapaon cette année. Et ce sera, par la grâce de Dieu, le mardi 20 février prochain.
Voilà. Je rappelle que le thème retenu pour cette troisième édition, c'est consolider le partenariat public-privé pour une main-d'œuvre qualifiée et une meilleure employabilité des sortants. Alors, comment on peut comprendre ce thème ou qu'est-ce que vous voulez également véhiculer à travers ce thème?
Oui. Alors, cette troisième édition a la particularité de poursuivre de façon synergique les actions avec les professionnels du monde du travail et toutes les parties prenantes pour perpétuer les actions commencées dans le temps. Vous comprenez que lorsque je parle d'alternance ou de placement d'apprenants et apprenantes en stage en milieu professionnel, le sous-secteur ne peut pas faire chemin seul. Donc, le partenariat public-privé est très crucial dans ce processus. C'est pourquoi nous allons de façon synergique avec les professionnels pour davantage de résultats, afin qu'à l'évaluation, évidemment, que le sous-secteur puisse répondre aux indicateurs qui lui sont imputés par la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et là, je voudrais saluer ici tous les efforts du gouvernement, parce que le gouvernement porte à cœur le sous-secteur pour agir ensemble en termes d'infrastructure, de la qualité, pour que le monde du travail puisse avoir la main-d'œuvre souhaitée ensemble et en synergie.
Exceptionnellement, il y a mon confrère Sylvestre Brigny qui a une question pour vous. Sylvestre.
Oui, tout à l'heure, madame parlait donc d'un taux de 6% des jeunes filles qui viennent donc dans les écoles professionnelles. Et elle tentait donc de lier cela à un problème de communication. Ma question est de savoir, est-ce que ce n'est pas plutôt lié à un problème donc de pédagogie et d'orientation? L'autre chose, c'est que aujourd'hui beaucoup donc de parents hésitent donc à envoyer leurs enfants au niveau donc des écoles professionnelles parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas les infrastructures adéquates sur place pour la pratique. Parce qu'à part d'école professionnelle, il faut miser plus sur la pratique que la théorie. Donc ils estiment qu'il n'y a pas encore suffisamment d'infrastructures sur place pour que leurs enfants puissent s'exercer. Alors, devant toutes ces questions-là ou appréhensions, que répondez-vous?
Merci pour l'intérêt. Je voudrais préciser que les 6% dont je parlais tout à l'heure, c'est le taux des apprenants et apprenants qui quittent le secondaire 1 vers le secondaire 2. Donc, il n'y a que 6%, 6 sur 100 qui viennent à l'enseignement technique. Voilà. Et je disais que lorsque vous allez dans les filières industrielles, il y avait rarement les filles, mais aujourd'hui, elles sont présentes avec les sensibilisations et l'adhésion de tout le monde. Au cours des sensibilisations, nous associons les leaders d'opinion, les parents et les apprenants et apprenantes eux-mêmes, vous comprenez? Donc, aujourd'hui, lorsque vous allez dans les établissements et centres de formation, vous allez voir que le changement est net et significatif. Par rapport à la pratique, je parlais tantôt de l'alternance et du placement en stage des apprenants et apprenantes en stage en milieu professionnel. Il y a d'autres outils pour l'insertion. Ces différents mécanismes permettent d'améliorer la qualité de la formation, parce qu'en entreprise, le matériel qui ne se trouve pas forcément à l'école se trouve en entreprise. Donc, du coup, l'enfant découvre le milieu professionnel avec ses réalités et puis revient à l'école pour la phase théorique. Voilà, donc qui résout un temps soit peu la question des matériels et équipements pour la qualité de la formation.
Alors, madame, si vous avez un appel à lancer, surtout aux acteurs hein, du domaine, les élèves, les enseignants, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Ben, c'est de se mobiliser autour de cet événement et nous souhaitons que ceux qui hésitent encore, les professionnels qui hésitent encore à accueillir les apprenants et apprenantes en stage, qu'ils ouvrent leurs bras parce que c'est ensemble que nous allons forger la main-d'œuvre. Dans le temps, la main-d'œuvre était forgée et les professionnels du monde du travail trouvaient que ce n'était pas adapté. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour forger la main-d'œuvre qui leur est destinée et qui leur convient. Donc, c'est de venir avec nous et les élèves, les formateurs, formatrices, les enseignants, enseignantes, tout le public à venir ensemble avec le sous-secteur pour célébrer l'enseignement technique et la formation professionnelle, levier du développement économique.
Merci beaucoup, madame, d'être passée dans cette émission. Je rappelle tout simplement que vous êtes madame Kafouya Djonion, présidente du comité d'organisation de la troisième édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette semaine, même d'ailleurs, qui aura son lancement à Dapaon. Et c'est du 15 au 24 février de cette année. Et bien évidemment, merci d'être passée.
Le lancement, c'est le mardi 20 février à Dapaon.
À Dapaon. Merci beaucoup, madame, d'être passée alors dans cette émission. Alors, nous revenons pour le débat en studio. Ses confrères, une fois encore, bonjour. Sylvestre, oui, c'est vrai que hier mardi, déjà, on a appris que le chef de l'État a effectué une visite au Congo-Brazzaville. Hein, et au cours alors de cette rencontre, où c'est une visite alors de travail et d'amitié hein, au Congo, et le déplacement alors du président de la République, et il a même tweeté, hein, il dit heureux d'être à Brazzaville. Ville ce jour pour poursuivre avec mon frère et ami Sassou Nguesso nos consultations périodiques sur les sujets d'intérêt commun au plan bilatéral et continental. Alors, Sylvestre, qu'est-ce que ça peut cacher cette visite alors du chef de l'État?
Oui, je suis cette fois-ci heureux que lui-même il a pu tuter en disant périodique, parce que périodique ça devient cyclique. Hein, le chef de l'État togolais M. Foya Singbe est très souvent donc au Congo, Congo-Brazza, et c'est pour la énième fois, hein, c'est pour la énième fois donc qu'il se retrouve avec Denis Sassou Nguesso. Vous savez, en langage diplomatique, on dit très souvent pour des questions bilatérales, on dit très souvent pour et des visites donc de travail et d'amitié. Mais tout cela, je ne sais à quoi cela cache ou cela rime. Mais l'essentiel à faire observer, c'est que souvent, donc au retour de ces visites-là, il n'y a pas assez de communication pour nous dire oui, le chef de l'État est revenu donc du Congo Brazzaville. Il y a tel accord signé, il y a telle société donc congolaise qui a paraffé un contrat avec une société togolaise, il n'y a rien de cela. Et à chaque fois, donc, on a souvent la nouvelle, le chef de l'État, donc, au Congo, Brazzaville, et puis il revient, et puis bon, basta, patatras, et ça fait encore la prochaine visite. Donc, ça devient, tel que je le dis, ça devient fréquent, ça devient récurrent. Le chef de l'État va, donc, au Congo, Brazzaville. Mais finalement, au niveau, donc, du peuple, on ne sait véritablement à quoi cela rime, puisque je le disais, il n'y a pas après. Il n'y a rien, quoi, on ne dit rien en ce qui concerne donc les accords et tout ça. Bon, lui-même, il a pu cette fois-ci dire que c'est périodique. Donc voilà, quoi, c'est périodique, c'est tout.
Voilà, c'est vrai que les deux chefs d'État hein, ont par ailleurs abordé des questions de paix et de sécurité. Alors, des questions alors de paix et de sécurité, je pense quand même que les deux peuples en tireront toujours profit.
Oui, ils en tireront profit. Tu as lu tout à l'heure le titre du chef de l'État qui a dit que c'est des visites périodiques.
Tout à fait.
Ce qui veut dire que c'est des visites de travail qu'ils font périodiquement et ils doivent se rencontrer périodiquement. C'est tout comme si vous avez une association, vous avez des réunions périodiques que vous faites pour que vous vous ressourciez de vos relations entre vous, entre vos deux pays. Donc, je pense pour moi que c'est une occasion pour eux de discuter des relations bilatérales entre le Togo et le Congo. Et c'est ce qui se fait de façon périodique. On ne peut que s'en tenir à ça, puisque on n'a pas les détails de ce qui se discute depuis là-bas entre eux. Et à la fin, c'est tellement que la présidente de la République, le service de communication, va au retour nous donner la quintessence de ce qui s'est passé là-bas au Congo. Sinon, pour le moment, on ne peut que s'en tenir à cette visite et bilatérale et les discussions qui s'en sont sorties. Bon.
Nous sommes rejoints par Fabrice Petiesi. Fabrice, bonjour.
Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, Fabrice, nous sommes en train de parler de cette visite d'amitié que le chef de l'État a effectuée hier chez son homologue alors du Congo-Brazzaville. Finalement, ça peut apporter quelque chose au peuple togolais ou aux deux peuples, cette visite?
Oh, pas forcément au peuple togolais, au peuple congolais. Je crois que quand vous faites une lecture très simple, vous vous rendez tout simplement compte que c'est beaucoup plus des questions diplomatiques. Bon, aller dire qu'on cherche des contrats au Congo, bon, c'est pas pour sous-estimer le Congo, mais moi, je crois que il y a deux éléments, deux mots qui sont revenus. On parle de paix et de sécurité. Et vous voyez un peu la situation dans l'autre Congo. Aujourd'hui, surtout la partie est du Congo, de la RDC, où il y a, c'est pas la paix et la sécurité là-bas, où on est en train, il y a quand même une certaine panique au niveau du continent. On craint quand même que les deux pays, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, par exemple, puissent rentrer dans un conflit ouvert, puisque tout le monde sait qu'il y a des problèmes dans ces deux pays. La RDC accuse ouvertement le Rwanda de soutenir la rébellion dans cette partie du Congo. Et je crois que sur les questions diplomatiques, je ne pense pas que c'est des comptes rendus fidèles qu'il faut forcément faire pour ce genre de déplacement. Ça, c'est mon analyse, hein, parce que quand vous prenez un peu le continent africain aujourd'hui, à part les royaumes qui sont un peu dans la partie nord du pays, et le Camerounais qui est un peu plus fatigué. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso et Faure Gnassingbé font partie quand même des plus anciens chefs d'État au pouvoir. Et donc, pour moi, aujourd'hui, notre continent est instable. Il est instable pour des raisons liées à la sécurité. En Afrique de l'Ouest, on n'en parle pas. Il y a les questions de terrorisme, les questions de coup d'État, les problèmes politiques au Sénégal. Et comme je venais de dire, du côté de l'autre rive du Congo, ce n'est pas non plus la paix entre la RDC et son voisin, le Rwanda. Donc toutes ces questions, lorsqu'elles sont abordées, je ne pense pas que tous les détails peuvent figurer dans un communiqué de presse à l'instant T. Peut-être qu'on en saura davantage, mais si c'était des questions économiques, facilement on peut relayer. C'est à mettre à l'actif des deux chefs d'État. Mais moi, je crois fondamentalement que ça va pas être sur des questions économiques, mais sur des questions de paix et de sécurité, pour des raisons diplomatiques.
D'accord. Estelle Koudjanou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM, et bonjour également aux confrères et mesdames en studio.
Est-ce que vous avez aussi l'impression que si c'est des questions de paix et de sécurité, on n'a pas tellement besoin alors de dévoiler le contenu comme cela se doit?
Et bien évidemment, on dit souvent qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, nous sommes dans une actualité très mouvementée, question sécurité, paix, stabilité. Donc, il est de bon ton que les chefs d'État se concertent et essaient de trouver les solutions idoines pour sortir de ces crises-là qui ne finissent pas dans la sous-région. Donc, on sait d'abord que l'homme communique très peu. On sait bien que notre président parle très peu et agit beaucoup. En témoignent les différentes médiations qu'il fait sur différentes questions dans plusieurs pays déjà. Donc, on peut sous-entendre que c'est encore dans cette démarche-là qu'il est allé voir son homologue Denis Sassou Nguesso pour régler ce problème d'instabilité, et qui parle de problème d'instabilité, de paix, parle tout de suite pour des avantages également pour les populations, puisque sans la paix, sans la stabilité, les populations également ne peuvent pas jouir de leurs droits et vaquer librement à leurs occupations. Donc, que ce soit la médiation, que ce soit sur des réponses probantes aux préoccupations, je crois que les populations ont attiré beaucoup et même les relations se renforcent également entre les États africains. Nous ne sommes pas sans savoir que ça part un peu dans tous les sens avec certains pays en Afrique. Donc, c'est l'occasion vraiment de resserrer le lien, de remettre certains sujets sur la table et trouver des solutions pour sortir l'Afrique de l'ornière. Donc, il y a de quoi s'intéresser à ces déplacements fréquents et attendre surtout les retombées au niveau des populations, au niveau des États.
Tout à fait. Attendre les retombées au niveau des résultats, bien évidemment. Alors, nous allons quitter le sujet. On revient chez nous et on parle des législatives et régionales qui nous attendent le 13 avril prochain. Nous connaissons bien la date et ce que nous connaissons aussi, c'est la répartition des sièges à l'Assemblée nationale et ces répartitions continuent alors de faire couler d'encre et de salive et cela donne alors des réactions au sein même d'ailleurs des partis politiques. La classe de l'opposition qui dénonce un certain nombre alors de dysfonctionnements au niveau alors de ces découpages. Alors, Sylvestre, vous écrivez à la une de votre journal La Machette ce matin, découpage électoral au Togo, quand l'émotion occulte les vraies questions.
Oui, en réalité, puisque c'est un sujet qui fait aujourd'hui plus l'actualité, après la répartition des 113 députés, votés, je crois, le 23 janvier par le Parlement. Et depuis, lorsque vous écoutez souvent donc au niveau de la classe politique de l'opposition, chacun donc va avec ses termes, on parle donc d'un découpage scandaleux, on parle donc d'un découpage qui accentue donc l'apartheid, on parle d'un découpage inique, certains vont même jusqu'à dire que c'est un découpage idiot. Mais ma question, puisque nous le disons, ma question est de savoir sur quelle base, quels sont les critères sur lesquels la classe politique, y compris et l'opposition et le parti au pouvoir se fondent pour nous proposer le découpage électoral. J'ai lu le dernier communiqué de la DMP qui dit qu'au début, le gouvernement avait dit utiliser donc des critères géographiques
et spécifiques.
Alors, ma question est de savoir qu'est-ce qu'on met en réalité dans critères spécifiques. Est-ce que si on tient compte donc des facteurs historiques du pays? Est-ce qu'on tient compte des facteurs sociologiques? Est-ce qu'on tient compte donc des facteurs sociopolitiques, voire même des facteurs anthropologiques? Mais qu'est-ce qu'on met en réalité dans le spécifique? Puisque aucun donc des deux camps, c'est-à-dire le pouvoir et l'opposition, ne se sont pas quand même mis autour donc d'une table pour décider donc des critères qui doivent fonder, si vous voulez, donc la répartition donc du découpage électoral. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que l'émotion, parce que tout le monde va donc dans tous les sens, et en réalité on laisse en fait le parti au pouvoir, ou sinon le gouvernement décider. Voyez-vous? Et je dis généralement, lorsque vous laissez donc l'arbitre, si votre adversaire politique est encore l'arbitre du jeu, donc il décide donc de ce qu'il veut. Et vous ne pouvez que subir cela. Parce que le découpage électoral, même si vous prenez donc l'accord politique global, signé, je crois, le 20 août 2006,
voilà.
La question y est déjà. La question du découpage électoral se posait. Et donc, c'est des questions qui ont été presque sous-estimées, puisqu'on donnait donc la latitude au gouvernement de revenir sur la question. Même le CPDC rénové, il y avait même un comité de suivi qui a été créé même après l'accord, la PGE et tout ça, mais la question n'était pas réglée. Et donc, patata, on en était là quand un parti politique dit non, maintenant il faut augmenter donc le nombre de députés à 117 et il faut tenir compte donc des 117 communes. Et rapidement, et la question a évolué donc au niveau du CPC. Et le Parlement, il y a un projet de loi que le Parlement a adopté, et puis aujourd'hui nous avons 113 députés. Sans tenir compte donc de... Il n'y a aucune discussion en amont pour décider donc des 113, puisque quand on a décidé donc des 113, les mêmes ont critiqué cela, même bien écouté donc le président...
Mais il semble que la proposition a été faite déjà au CPC.
Oui, la proposition a été faite au CPC, mais... et le parti, je crois que c'est le CAR qui en a fait la proposition, en parlant donc de 117 députés, hein, et donc arrimer cela aux 117 communes que nous avons. Voyez-vous? Et donc, ça n'a pas eu donc l'assentiment de tout le monde en réalité. Voyez-vous? Ça n'a pas eu l'assentiment, puisque la ANC l'avait critiqué, les FDR, qui sont également au CPCI, l'ont critiqué. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu, ils ne sont pas accordés, hein, sur l'augmentation.
Consensus.
Sur l'augmentation, donc, du nombre de députés. Et combien on doit augmenter en fonction de quoi? Hein, on doit répartir cela. Il n'y a eu aucune décision préalable là-dessus. Donc c'est le gouvernement qui a dit 113. Et puis bon, après les gens attendaient, puisque le Parlement avait voté pour les 113. Donc les gens attendaient pour voir comment se ferait la répartition. Mais aujourd'hui, la répartition est faite et on se fonde beaucoup plus sur le critère démographique, en disant que telle région est plus peuplée que telle autre, mais telle région a eu plus de députés que telle autre. Voyez-vous, puisque la question est réelle, si vous prenez même les élections législatives donc de 2007, vous verrez que l'opposition, même de 2013, l'opposition a souvent plus de voix que le parti au pouvoir, mais le parti au pouvoir remporte plus de sièges que l'opposition. Donc ça veut dire que le débat se posait depuis, et donc on devait traiter cela comme un débat national et discuter, harmoniser là-dessus.
D'accord.
Maintenant, c'est comme si les dés sont pipés. Et puis bon, voilà.
D'accord. Fabrice, la question de découpage électoral, ça a été toujours un vieux débat et l'opposition a toujours dénoncé cela. Mais est-ce que finalement nous ne sommes pas sur un terrain politique et que c'est de bonne guerre?
Oui, c'est les politiciens qui font leurs calculs. Les gens cherchent juste des postes à l'Assemblée nationale, c'est tout le problème. Parce qu'en réalité, quand on fait ce débat-là sur, quand on me parle de critères démographiques, je crois qu'il faut tenir compte de plusieurs réalités dans un pays. Et il faut faire très, très attention à certains éléments. On ne peut pas faire un découpage électoral en se basant rien que sur le critère démographique. Je dis non, ça serait une injustice. C'est-à-dire qu'au même moment où les gens cherchent à combattre une injustice, ils en instaurent une autre. Et l'autre injustice, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de dire que ceux qui sont minoritaires, on n'a pas besoin d'eux dans un parlement. Non! Il faudrait faire très très attention. Il faut que l'ensemble du pays puisse être représenté dans un parlement. Que quoi que minoritaire que vous soyez, vous pouviez également apporter au moins, porter haut également vos préoccupations. Alors, vous voulez qu'on nous dise que Lomé a 50 députés, ils vont foutre quoi? Ils foutent quoi à Lomé? Qu'est-ce que Lomé fout pour qu'on dise qu'on a 50 députés? Des gens, moi je suis dans mon cas, je sais même pas qui est député de ma zone. Je sais même pas. Mais vous prenez des gens, vous allez dans la Délé, je sais pas, dans le Badou, dans les savanes, allez voir ce que ces députés-là endurent. Un député dans les savanes ou dans les plateaux, il fait deux fois le voyage dans son village. Sa prime à l'Assemblée nationale est terminée. Mais ceux de Lomé, ils font quoi? Et ils se baladent comme nous aussi. Dites-moi, les députés de Lomé, vous voulez qu'on fasse 50 députés à Lomé, là, pour qu'ils fassent quoi? Et que ça change quoi quand vous me parlez des critères démographiques? Donc d'autres zones vont rester parce que bon, ils sont pas nombreux là-bas, on les laisse sur le carreau et seulement on agglutine les députés dans une zone du pays, tout simplement parce que les gens sont nombreux là-bas. Moi je crois que c'est une autre injustice. Et il faut également tenir compte des minorités. Quoique minorités, ils sont pas nombreux dans leur zone, mais ils ont des préoccupations. Aujourd'hui on parle de la question de l'eau potable et tout cela. Il faut que des gens portent cela. Si nous tous nous sommes à Lomé, nous sommes nombreux dans les quartier, et puis bon, on est là et on dit qu'on a 100 députés, le reste 13, on répartit sur l'ensemble du pays. Vous pensez que c'est une justice qui peut faire avancer le pays?
Tant que vous êtes élu député et vous êtes à l'Assemblée nationale, vous représentez le peuple. Hein?
Oui, mais c'est quand vous représentez le peuple, un bon politicien, quand le CAR a eu 36 députés en 1994, c'est pas à couver qu'à Gbeboa il est 36 députés. Quand vous êtes un parti politique, il faut être capable de gagner partout. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une majorité au Parlement et vous comptez sur vos frères et sœurs, vous ne l'aurez jamais. Et ça, c'est une bénédiction pour notre pays, le Togo. Où le Togo est fait de telle sorte que si vous ne comptez que sur vos frères et sœurs, vous n'aurez jamais la majorité au Parlement. Il va falloir forcément faire avec les autres. Pour avoir la majorité au Parlement, il faut piocher pratiquement dans toutes les préfectures pour pouvoir avoir cette majorité-là. Donc ne me dites pas qu'on vienne agglutiner tous les députés à Lomé parce que nous sommes nombreux à Lomé. Ça, c'est une injustice.
D'accord. Est-ce que vous trouvez aussi que c'est une injustice quand peut-être on se base que sur la démographie, hein, pour faire le découpage électoral?
Et moi, en lisant entre les lignes, j'ai comme l'impression que l'opposition exprime un mal-être que lui-même n'arrive pas à cerner. Je m'explique. Il y a parfois des discussions, on a comme l'impression qu'on ne veut pas que les choses avancent. C'est dit, en politique, ils se connaissent bien. Quand tu donnes un peu, on te prend un peu. Quand tu donnes un peu, on te prend un peu. Et ensemble, vous trouvez un consensus pour avancer. Mais l'opposition veut avoir tout, tout de suite et maintenant. Ça ne se sert pas sur un plateau.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie politique?
Bien sûr, nous parlons de stratégie politique. Mais quand l'opposition donne comme impression qu'on veut tout avoir au Sud, en même temps, elle fait savoir en fait que je ne suis capable que d'avoir des voix au Sud. Pourquoi on ne va pas à la conquête de l'électorat sur toute l'étendue du territoire national? Actuellement, le débat ne doit plus être là. Maintenant que vous avez proposé 117 députés, vous avez obtenu 113 et que le corps électoral est convoqué. Mais posez les pions, commencez par tâter le terrain pour penser à glaner le plus de voix possible. Si le débat doit s'apesantir actuellement encore sur le nombre de voix, la clé de répartition, mais nous allons en reculant, et dans deux jours, vous verrez l'opposition dire en fait qu'il y a, comment l'appelle-t-on, c'est parce qu'il y a des l'élection a été truquée, c'est pourquoi on n'a pas obtenu le nombre de voix possible pendant qu'on laisse la lutte même ailleurs. Mais c'est pas parce qu'on vous a donné aujourd'hui 113 voix que vous êtes capable d'obtenir les 113 voix. Hein. Il ne faut pas que ce côté-là échappe à nos politiques. Vous avez ces 113 sièges aujourd'hui. Mais il faut conquérir l'électorat pour pouvoir glaner certaines voix dans cela. Sinon, le pouvoir peut s'en sortir avec les 113 sièges. Puisque eux, ils sont en train de travailler aujourd'hui sur la conquête de l'électorat et comment placer les pions déjà pour avancer. Pendant que l'opposition est en train de critiquer encore ce qui est déjà acté, pendant que le processus évolue. Donc, à un moment, il faut s'arrêter, il faut faire le break, se remettre en question, savoir qu'il y a des revendications qui sont légitimes, mais il faut savoir poser les débats, faire des analyses pour pouvoir avancer, en attendant de régler le problème en amont, en aval, puisqu'on est, on est en train de le dire. Il y a longtemps que le problème l'a fait, le sujet l'a fait débat, mais ils ne sont jamais parvenus à avoir un accord tel qu'il le souhaite. Il faut se demander, mais comment est-ce que nous nous posons la question pour ne pas obtenir gain de cause et remettre la chose autrement pour pouvoir avancer? Sinon, à cette allure, on va plutôt en reculant, on n'avance pas dans le processus.
D'accord. Abbas, est-ce que finalement, ce débat doit être clos et qu'on doit plutôt aller sur le terrain et travailler?
C'est des polémiques inutiles. Parce que ce découpage dont on est en train de crier, il est décrié. Ça a été fait de façon consensuelle. Le pouvoir ne
sait pas. Mais c'est parce que l'opposition dit.
Mais ils sont consensuels. Il faut être honnête hein, dans cette situation. Parce que quand on a proposé 117, après les 113 ont été envoyés au CPC pour discussion. Et c'est après que ça a été envoyé à l'Assemblée nationale pour adoption. Donc il ne faut pas qu'on nous dise que les gens ne sont pas. C'est la malhonnêteté intellectuelle qui est en train de se faire aujourd'hui. Selon les informations que l'opposition, tous ceux-là qui critiquent là, ils savent que c'est comme ça.
Donc, mais le souci même voilà. Aussi, c'est que tous ces gens qui critiquent ne sont pas au CPC.
Oui, j'ai dit qu'il faut arrêter. Ils ne sont pas au CPC. Ceux qui ne sont pas au CPC, on les connaît. Mais ceux qui sont au CPC, qui ont travaillé avec ça, on les connaît. Et qui savent que c'est comme ça. Et qui sont les premiers à contester, on les connaît. Les 113 ont été repartis selon les circonstances. Avant, je l'avais dit la dernière fois. Avant, on parlait de Grand Lomé. Aujourd'hui, on ne parle plus de Grand Lomé. On parle de deux préfectures. Il y a la préfecture d'Agoué et la préfecture du Golfe. Avant, on mélangeait la préfecture d'Agou et Agnès était dedans. Aujourd'hui, on a séparé les deux préfectures qui ont encore des députés. Et c'est à partir de ça que c'est. Même dans la préfecture d'Adélé ou bien quelque chose comme ça, on a disséqué cette préfecture-là pour que chacun ait quelque chose. Mais lorsqu'on nous parle qu'on veut que le Grand Lomé prenne plus de 50, que le Grand Lomé a 14, on ne parle plus de Grand Lomé. Maintenant, on parle de deux préfectures. Et c'est de ces deux préfectures-là qu'il faut miser. Au lieu de travailler et de faire des polémiques inutiles, gagner le terrain, on ferait mieux de se taire sur ces polémiques parce que quand vous prenez le cas en 1994, qui a gagné les élections législatives, c'est parce que le CAR a été implanté. Avant, on disait, après le RPT, c'est le CAR qui suit. Sur l'implantation de son parti, sur toute l'étendue du territoire national. Pourquoi les autres partis politiques qui sont en train de critiquer maintenant, de travailler sur le terrain pour avoir au moins aussi des positions bien fortes et venir aussi racler les voix sont en train de critiquer, faire des polémiques aujourd'hui inutiles. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, même là où les gens disent qu'on n'a qu'à donner plus de députés, Unir même a déjà gagné ce terrain. Unir a déjà pris certaines voix des terrains, des fiefs de certains partis de l'opposition ou qui disent que nous sommes plus forts là-bas. Quand vous prenez Unir a déjà gagné tous ces points-là. Donc, maintenant on dit, même sur les 113, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir, si vous ne travaillez pas sur le terrain, c'est que vous n'aurez rien comme chose. Parce qu'il faut aller sur le terrain travailler. Pendant que Unir travaille, d'autres sont là en train de critiquer, de s'organiser, de dire que 500 000, quoi. Donc, c'est pas bon.
Alors, Sylvestre.
La revendication qui s'enlise, même porte-à-croix, finalement, on a comme impression que certains acteurs politiques ne veulent qu'avoir un poste pour mettre l'argent dans leur poche. Quoi. Tout porte-à-croix qu'on ne pense pas aux populations. Sinon, sincèrement, il n'y a pas débat à faire. Si tu sais que je peux couvrir toute l'étendue du territoire national, que j'ai assez de ressources humaines pour positionner des candidats à tous ces... Mais là où tu juges qu'il y a plus de voix là-bas, mais positionne tes candidats et tu bats campagne, tu réussis, les gens votent pour vous et vous allez travailler dans les contrées les plus reculées. Parce que c'est là où vous avez pu glaner des voix. Mais telles que les discussions sont faites aujourd'hui, on a comme impression qu'il veut avoir un grand nombre de voix juste pour pouvoir placer ceux qu'ils ont à l'Assemblée, qui se brûlent pour les proches et puis tout le monde s'en va.
Est-ce que vous avez aussi l'impression que c'est une polémique inutile?
Non, en réalité, ce n'est pas une polémique inutile. C'est vrai que tout a été acté, mais vous savez, généralement en politique, pour ces genres de questions, il faut discuter de cela. Tout à l'heure, on parlait donc de 500 000 comme caution. Je dis que c'est vrai que c'est acté, mais c'est exagéré. C'est exagéré parce que lorsque vous prenez.
Pourquoi,
donc,
pourquoi
oui, je vais vous expliquer. Oui,
on laisse Sylvestre terminer.
Pourquoi c'est exagéré.
Je sais pas, mais on peut vous faire une licence.
Non, je vais vous faire une licence.
Je vais vous
verrez que c'est exagéré.
Voilà, allez-y.
Lorsque nous prenons les législatives de 2013, la question c'était combien? C'était 200 000.
Tu as dit 2013, hein?
Comment en 2024? Vous verrez que c'est exagéré. Voilà, nous prenons donc les législatives de 2013, la caution c'était combien? C'était 200 000. Et là, toute l'opposition avait participé à cela. En 2018, l'opposition avait annoncé le boycott donc les législatives. Et vous avez vu que, et après on a suscité quelques candidats, je ne veux pas donner donc les noms donc de tout ce qu'on dit, les députés, mais. Et donc, de 2013 à 2018, la caution est ramenée à 100 000 francs. En 2013, c'est à 200 000. En 2018, la caution est ramenée à 100 000 francs. Et de 100 000 francs, et en 2024, on monte de 100 000 francs, on monte à 500 000. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique dans une... Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Vous ne pouvez pas augmenter de 100 000 à 500 000.
Moi, je crois que c'est trop peu. 500 000, c'est peu. Parce que quand tu veux faire de la politique, il faut avoir les moyens. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Les gens payent 500 000 pour faire le BTS. Des étudiants payent 500 000. Nous sommes dans un pays, aujourd'hui on est là, on se plaint que parfois les impôts sont trop, les factures sont trop et tout cela, et quelqu'un va venir pour que moi je le suive, pour qu'on diminue la caution pour être député. Jamais du tout. Celui qui veut faire de la politique n'a qu'à avoir les moyens.
D'accord.
Les étudiants payent 500 000, ils n'ont pas encore la licence dans les universités privées. Et vous me dites, un député qui va aller gagner un million et quelques, vous me dites que payer 500 000 pour être candidat à la députation, c'est trop? Non, c'est pas trop. Mais prenez notre niveau de vie aujourd'hui et peut-être qu'on va en venir. La question des femmes aussi.
Oui.
Ça aussi, c'est un autre problème. Pourquoi les femmes doivent payer la moitié?
Pour les
encourager.
On va en revenir.
Elles ont l'argent. Leur problème, ce n'est pas un problème de caution. Le problème de la femme en politique, c'est pas un problème d'argent. C'est pas un problème d'argent.
D'accord.
Je crois que ça, même si ça fait partie des problèmes, il faut chercher pourquoi les femmes ne se positionnent pas trop en politique. Nous avons eu une culture politique qui était un peu violente à un moment donné et qui décourage un peu. C'est sur des éléments comme ça, il faut agir. Sinon, si c'est l'argent, elles en ont.
Et puis, ces choses même ne prennent pas l'égalité. Sincèrement, les gens vont me trouver un peu bizarre, mais je l'assume. Quand on dit qu'on promeut aujourd'hui l'égalité des sexes, quand certains féministes brandissent ça, que l'égalité des sexes. Maintenant, au nom de quoi on va réduire de moitié le cautionnement pour les femmes? Oui, réclamons cette égalité-là en respectant le même montant qui est fixé avec les hommes et allons-y, tout simplement.
Non, mais ça, c'est pour motiver plus, en fait, c'est pour motiver plus les femmes.
Ne perdons pas le fil de ce que je veux dire. Moi, je reviens sur la caution.
La caution.
Là, on voit quelque chose aujourd'hui.
La caution, pour moi, elle est trop basse. Il faut payer 1 million.
C'est pas une question de
payer. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
On voit quelque chose aujourd'hui à 100 francs. Et le lendemain, on vous dit. Ce qu'on va à 100 francs est devenu 1000 francs. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique! C'est pas logique!
S'il vous plaît. Abbas, s'il vous plaît. Abbas, s'il vous plaît.
Pourquoi est-ce qu'ils
ont. S'il vous plaît.
Non, c'est pas une question de cadre.
S'il vous plaît. Non. Excusez-moi. Est-ce qu'on ne peut pas faire le débat de telle enseigne que ceux qui nous écoutent, pour que ceux qui nous écoutent puissent mieux nous écouter, s'il vous plaît. Parce que tel que nous faisons le débat, si chacun parle, je pense quand même que les gens qui nous écoutent ne vont pas mieux nous écouter. S'il vous plaît, allons-y un à un. S'il vous plaît, c'est Abbas qui a la parole. Abbas, voilà, Michel, ouvre le micro alors d'Abbas. Abbas,
oui,
c'est vrai, nous parlions alors de la caution. Justement, nous parlons de la caution. Et vous ne trouvez pas que c'est exagéré?
C'est moins peu même. Parce que 500 000, quand lui fait des comparaisons pour dire 100 000, 200 000, 300 000, nous sommes en train d'évoluer. Vous savez combien gagne un député? Vous savez combien coûte un député togolais au contribuable togolais? Vous ne le savez pas? Un député par an coûte 3 millions de francs CFA, plus de 3 millions de francs CFA. Alors, trouver 500 000 francs pour déposer une candidature, être député et venir gagner par mois 3 millions, il faut compter le nombre de mandats qu'il va faire. C'est 6 mois, 6 ans maintenant, le mandat. Et on dit
50 millions.
Hein? On dit de payer 500 000 pour aller être député et vous trouvez que c'est cher. Alors que nous sommes ici, vous nous dites que les gens sont pauvres, on nous évoque des problèmes de pauvreté dans. Vous allez voir ici que les candidatures qui vont affluer à la CENI, vous allez constater, vous allez être surpris que les gens sont là et vous allez vous demander où est-ce qu'ils ont trouvé les 500 000. Ils vont les trouver. Moi, le problème, c'est que, comme l'a dit Fabrice, il ne fallait même pas qu'on dise que les femmes paient moins la moitié de ce que les hommes vont payer. Il fallait l'équité. Quand on cherche l'équité, genre.
Mais là aussi, c'est parce qu'on veut faire la promotion,
ouais,
surtout.
Oui, c'est pas la solution.
Sur ce levier-là, il faut appuyer.
Oui, c'est pas la solution. Même si on dit que les femmes n'ont qu'à payer la moitié, est-ce que ces femmes-là ont la volonté d'y aller? Est-ce que les partis politiques qui vont proposer les femmes auront même ces femmes-là pour les proposer? Elles auront le courage d'aller? C'est le courage. Bon, pour qu'elles aient le courage, Fabrice a évoqué quelque chose. Il faudrait mettre ça en avance d'abord, avant de dire, on redit demain. Depuis la communale de 2019, on a redit la caution des femmes à 100 000. Mais combien de femmes on a au niveau des communes? Combien de femmes? On a redit aussi ça depuis pour les législatives. Combien de femmes on a au niveau du Parlement. Donc tout ça là, c'est, il faut trouver autre chose.
D'accord.
Même les gens ne vont pas pouvoir proposer des femmes et aller payer ces cautions-là.
Merci beaucoup, Abbas. Estelle?
Oui, les raisons sont réelles. Les pesanteurs sociales ont toujours joué en défaveur de la femme. Pour moi, le levier sur lequel il faut appuyer, c'est même dans notre secteur. Moi, je suis dans un domaine où c'est la jungle, la presse écrite, là, c'est la jungle. Je sais ce qui se passe. Donc, je comprends aisément ce que les femmes subissent également en politique. Donc, le levier sur lequel il faut appuyer ailleurs, quand on parle d'équité, genre, il faut mettre tout le monde sur le même piédestal et chacun bat campagne. Ensemble, on s'enfonce. Celui qui remporte les élections remporte. Mais quand il y a déjà ce décalage-là, c'est comme il y a du favoritisme qui ne dit pas son nom et ça n'encourage pas. Maintenant, de là, quand nous revenons 500 au cautionnement qui est fixé à 500 000. Le ministre avait expliqué que dans la sous-région, le Togo avait le montant le plus bas. Le montant actuellement dans la sous-région le plus bas, c'est 500 000.
Donc, mais on doit faire les choses conformément à nos réalités.
Je n'en dis combien pas. Mais comme viennent de l'expliquer mes confrères, vous pensez qu'un député qui dépose sa candidature pour aller à l'élection, quand on lui demande 500 000 francs pour aller à l'élection, vous pensez que c'est trop demandé? Quand je vous disais à l'instant que les gens vont aller là-bas juste pour se bourrer les poches et ne pas travailler pour les populations, vous pensez que je blaguais? Vous attendez de voir. Vous savez que les gens font du business avec ces candidatures-là, vous savez? Est-ce que vous le savez? Qu'il y a des gens qui font du business avec...
Personnellement, je ne le sais pas.
Il faut un peu rehausser le montant. Comme ça, quand je sais, je mets 500 000 francs pour candidater à une élection, je sais que c'est sérieux, je mets du sérieux, je développe mon programme de société pour impacter les gens, pour pouvoir les amener à me voter, mais je ne vais pas faire quand même de la pagaille parce qu'on m'a demandé un 100 000 que je peux emprunter rapidement, je vais verser ça, je m'en vais, je sais que je peux glaner après une voix et puis je fais ce qui me passe par la tête.
D'accord.
Il faut amener les gens trop sérieux.
D'accord, merci. Sylvestre,
en réalité, nous ne disons pas la même chose. C'est-à-dire que si on fixe la caution à 500 000, et c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on le fixe à 500 000, le problème ne se pose pas. Je parle donc, il y a des précédents. En 2013, c'était 200 000. Maintenant, en 2018, les gens estiment que certains se disent que, en fait, c'est politiquement et augmenté. C'est-à-dire qu'en 2013, c'était 200 000. En 2018, l'opposition avait annoncé son boycott, le boycott donc des législatives. Et on a ramené la caution de 200 000 à 100 000. Il y a eu diminution. Maintenant, quand l'opposition annonce cette fois-ci que, quel qu'en soit le cas, elle va participer donc aux législatives de 2024, subitement la caution est passée donc de 100 000 à 500 000. Et je faisais... Et je faisais l'allusion en disant
ok, merci. Ok, mais merci beaucoup. Je pense. Oui, Sylvestre.
Avant ça, on a acheté aujourd'hui le carburant à 700. Et que deux jours après, on nous dit que le carburant est à 1500. Est-ce que nous serons heureux? Est-ce que nous serons contents de cette hausse? C'est ça le débat.
D'accord. Merci. Fabrice, s'il vous plaît.
La parole est à mon niveau.
Oui, c'est à votre niveau.
Non, en fait, ce que moi je voudrais. Bon, moi, je n'ai pas fait cette lecture. Ce jeu politique, parce que moi, pour moi, l'argent n'a pas de couleur. Voilà. Donc, bon, qu'il vienne de l'opposition ou du pouvoir. Mais ce que je suis en train de dire, voyez un peu notre niveau de vie aujourd'hui. On n'est pas en train de vous dire d'aller, c'est-à-dire que vous, aujourd'hui, il y a des analyses que vous pouvez faire à l'hôpital qui vous reviennent à 500 000. Ben, ça dit quand on doit se battre pour qu'on diminue des prix à des niveaux, c'est pas au niveau de la caution pour être député. Non. On peut se battre pour qu'on diminue le prix du ciment, du carburant, les produits des denrées de première nécessité, les frais de scolarité. Tout le monde a mérité. Quelqu'un se lève, il dit qu'il veut être député, et vous voulez que, bon, moi je, pour avoir des candidatures. Non, moi je crois que pour être député, il faut être capable d'avoir quand même les moyens. Maintenant, si tu veux, on termine pour les femmes.
Non, mais justement, puisqu'il est déjà midi 4, donc nous allons revenir alors là-dessus. On va revenir là-dessus. Et je pense qu'on va en arrêter là, hein, pour ce qui concerne alors ce débat. Je sais que c'est passionnant, mais on va en arrêter là. Et nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Mais bien avant, on fait un clin d'œil à nos annonceurs.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. GoAfrica Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com.
Devinette, Fomo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins?
La gloire!
presque. Ce sont les économies. Les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute la famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique!
Canal Box, profitez d'une connexion illimitée et ultra rapide pour toute la maison. À partir de 15 000 francs par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus ou contactez votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre.
Le gouvernement lance le processus d'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle avec la CNSS. Vous êtes travailleur affilié à la CNSS, titulaire d'une pension auprès de la CNSS, travailleur indépendant, opérateur de l'économie informelle ou agricole, ministre de culte ou toute autre personne exerçant une activité non salariée, l'assurance maladie universelle vous offre une couverture jusqu'à 80% sur les actes de santé et de médicaments. Avec l'assurance maladie universelle de la CNSS, se soigner n'est plus un souci. Pour toute information, appelez le 8323. La CNSS, c'est un pour tous et tous pour un.
Vous êtes opérateur économique et vous estimez avoir été injustement évincé d'une procédure de passation d'un contrat, de la commande publique ou tout simplement vous estimez que les termes du cahier de charge de marché public ne respectent pas la réglementation en vigueur. Saisissez l'autorité de régulation de la commande publique. Le comité de règlement de différends CRD de l'ARCOP est chargé de régler les litiges qui peuvent subvenir avant, pendant et après la passation ou l'exécution des contrats de la commande publique. Rendez-vous au siège de l'ARCOP, si dans l'immeuble Salam Assurance sur le boulevard Niassimbe et Adema ou sur le site web arcop.tg pour exercer un recours. Avec l'ARCOP, on avance dans la transparence.
Depuis que je l'ai connue, je ne me sépare plus d'elle. Tellement j'en suis amoureux que je suis avec elle tout le temps. J'aime son goût naturel, sans sucre ajouté. Diamant, je l'ai, je suis diamantisé. Diamant,
mon amour.
Diamant,
mon amour.
Diamant,
mon amour. À jamais on est ensemble.
Diamant. Tradition allemande brassée au Togo.
Buvez du whisky chinois Ding pour améliorer l'immunité. Faites à base des plantes traditionnelles très efficaces, whisky chinois Ding est très bon pour votre santé. Du whisky chinois Ding renforce la capacité physique des cellules de votre corps et donne de l'énergie. Buvez whisky chinois Ding pour son côté naturel et médicinal et lutter contre plusieurs maladies. Le réseau de vente du whisky chinois Ding couvre tout le Togo et est disponible dans les supermarchés, les magasins, les restaurants et les bars. Pour toute information complémentaire, adressez-vous au supermarché Horizon Ivato à Lomé, à Blogame. Contact plus 208 79 82 52 52 et 96 75 79 79. Whisky chinois Ding, la solution à vos problèmes de santé.
Doublecom Fimo 228 se réinvente à nouveau du 21 au 24 février 2024 avec jeudi 22 un défilé 100% togolais à l'Institut français du Togo. Le 23 et 24 février, deux défilés haute couture dans les jardins de l'hôtel Onomo. Écoutez-vous et laissez-vous emporter par la mode, la création, l'exubérance. Doublecom Fimo 228 du 21 au 24 février, quelques jours hors du temps. Jeudi, entrée uniquement sur invitation. Pour le vendredi, les tickets sont à 10 000 et 15 000. Le samedi, 20 000 et 30 000. Contact 90 43 75 75. Vous avez du talent. Nous avons le Togocom Fimo 228.
Comme ami, choisissez l'assurance DIFA de Sonu Bank Togo. Souscrivez à moindre coût et garantissez-vous une épargne pour la réalisation de vos projets à court ou à long terme en toute sécurité. Sonu Bank a le bon profil pour garantir la réalisation de vos projets. Contactez Sonu Bank Togo au 22 53 47 00. Sonu Bank, avec vous à chaque étape.
L'hôtel Sahakawa, votre hôtel 100% togolais, a le plaisir de vous convier à la soirée Cupidon le samedi 17 février à partir de 19h.
Je t'aime.
Venez nombreux, passez une soirée bal masquée mémorable avec un super dîner qui vous fera voyager. Que vous soyez seul ou accompagné, vous aurez l'occasion de profiter d'un cadre agréable et festif, d'une animation musicale de qualité avec Quest Didier. Au micro pour l'animation, l'incontournable Papson l'original. Au programme, prestations d'artistes, jeux en couple, jeux tombola, des super prix à gagner avec l'hôtel Saratawa et ses partenaires. Attention, les places sont limitées. Réservez maintenant au 22 27 65 90 97 14 39 39. La soirée Cupidon, c'est l'événement à ne pas rater le samedi 17 février à l'hôtel Saratawa.
Le cabinet Afrique Search organise la 4e édition du forum Afrique Talent Lomé du 23 au 24 février 2024 au centre de conférence ETI. Une dizaine d'entreprises sera présente et une campagne de sélection des meilleurs candidats est en cours. Vous êtes jeune diplômé ou cadre expérimenté? Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière? Inscrivez-vous dès à présent sur www.africtalent.fr. Afrique Talent, c'est aussi des interventions d'experts et coachs expérimentés, des conférences sur des thèmes liés à l'actualité africaine. Rendez-vous sur www.africtalent.fr. Afrique Talent, un forum Afrique Search.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la presse de ce mercredi et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous contacter au 22 21 33 74 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Oui, bonsoir.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Je vais bien.
D'accord. Le nom c'est?
Benoît Dagouet.
Benoît, allez-y.
Ok. Moi, je voulais parler de la question et les élections, s'il vous plaît. Je viens de l'apprendre que...
Allô, Benoît? Allô? Décidément, Benoît est parti. 22-21-33-114. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Très bien, comme un ange au ciel.
D'accord. Le nom, c'est...
Ousseni, le message
oui, de l'homme. Ousseni, allez-y.
Moi, à mon humble avis, je trouve les 500 000 là très bien. Parce que pour être député, il faut avoir la poche, quoi. C'est à mon humble avis. Merci.
Merci beaucoup, Ousseni. 22-21-33-114-91-36-63-75.
Allô.
Allô. Bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Le nom, c'est...
Bonjour.
Oui, bonjour, nous vous écoutons.
Bonjour.
Bonjour, votre nom, c'est...
Oui, j'aimerais passer à l'émission.
Oui, vous y êtes. Votre nom, oui, votre nom, on vous écoute. Peut-être qu'il n'a pas de retour. Alors, 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Comi,
allez-y.
Moi, je ne suis pas d'accord sur l'augmentation de la caution. Pourquoi je le dis? Comme d'autres pensent que pour être député, il faut avoir les moyens. Alors, où se trouve la moralité, la probité des gens que nous voulons que eux dirigent ce pays? C'est comme si le Togo est devenu de jour en jour un pays de pagaille. Parce qu'on ne peut pas se lever et hausser la caution sans donner les motifs, les objectifs ou bien les mobiles qui sous-tend cette augmentation. C'est comme si, bon, me semble, je fais ce que je veux. Et c'est de la sorte, à chaque jour, vous allez chez Ali pour acheter les produits d'alimentation, les prix augmentent comme on le semble. Et ce n'est pas bon.
Oui, Komi. Allô, Komi.
Allô?
Oui, je n'ai pas trop saisi le rapport que vous mettez entre la caution et la moralité.
Oui, puisque c'est comme si l'argent est plus important que la question de la moralité sur laquelle le pouvoir devait mentionner d'autres ou bien faire des ajouts pour qu'on ait des candidats de bonne moralité. On met l'accent sur l'argent, ça sous-entend que la minorité qui a pillé il y a que quelques années, cette minorité-là aura encore la garantie de placer ses hommes.
C'est ce que ça voudra dire.
D'accord.
Et les pauvres cultivateurs, les simples jeunes qui veulent aussi avoir l'opportunité pour pouvoir donner le peu qu'ils ont à ce pays, ne pourront pas le faire.
Mmh.
Ou bien pourront le faire à condition. Et ça, là, ça désoriente le débat politique.
D'accord.
Pour finir.
Rapidement, oui.
Je ne pense pas que les gens vont à l'élection législative pour se faire rémunérer. Quand le débat se fait comme ça, ça voudra dire que les gens ne seront pas là pour contrôler l'action gouvernementale et pour voter des lois pour pouvoir servir le peuple.
Merci beaucoup, Komi. 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô.
Allô, bonjour, Kanda Fa.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, moi je voulais parler
oui,
sur
le nom c'est
l'augmentation.
Votre nom
je
c'est.
Je vois que c'est Abdoulaye Boutu.
Oui, Abdoulaye, allez-y.
Oui, je vois que l'augmentation même là c'est trop peu. Parce que si vous voulez acheter quelque chose, il faudra payer ça cher pour bien en servir. Donc, si même l'augmentation, il peut avoir même 1 million plus. Là, s'il vient là, ils vont bien travailler. Parce que s'ils ne payent pas beaucoup, c'est pourquoi ils viennent, ils nous font de n'importe quoi et nous, on souffre.
Abdoulaye, merci. Okay, le message
et
est passé.
Maintenant, pour les femmes aussi, les femmes aussi doivent payer les mêmes sommes. La même somme aussi. Parce que les femmes qui disent qu'il y a l'égalité de sexe, pourquoi ils vont payer la moitié? Ils doivent payer le même son, la même somme.
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup, Abdoulaye. 22 21 33 114. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour. C'est Dizier. Oui, Dizier, allez-y.
Oui, mais moi, sincèrement, parfois, quand j'écoute des débats, je dis au passage bonjour à Komi et puis à M. Nyamavo, c'est là, l'écoute là. Si j'écoute certains débats, je me pose beaucoup de questions, hein, parce que tout le pays là n'a pas perdu cette valeur là. Donc, c'est l'argent qui est la valeur de ce que nous faisons. Donc, l'argent a plus de valeur que la moralité. Quand on nous dit de 500 000, de 100 000, on est monté à 500 000, et puis les gens défendent ça, il y a quelle logique? C'est quelle logique dans ça? C'est quelle logique? De 500 000, c'est-à-dire au gré des variations, au gré des intérêts du pouvoir, il peut aller jusqu'à 2 millions. Et maintenant, ceux qui sont pour... Et Fabrice, si si c'était comme ça, Fabrice lui peut venir à Lomé. Je vais poser une question à la dame. Est-ce qu'elle est fière? Elle est fière que sa voix dans le sud là est minime à une voix au nord. Donc on ne crée pas un état. Donc c'est comme moi je me vois en face de quelqu'un que du nom je trouve qu'il est plus important que moi. Alors nous sommes tous des Togolais. Bon, mais pourquoi ne pas transformer tout le Togo en une circonstance électorale? Là, en fonction de voix que vous avez sur le plan national, vous avez une proportion de députés. Pourquoi vous ne le faites pas? Si on est aussi le pouvoir logique. Mais vraiment, ce pays-là, moi, je pense que le président Olympio, là, il a le fait de le tuer même par terre, puis personne n'a réagi. Il a maudit ce pays-là quand j'écoute des débats comme ça. Là. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup.
Merci, Didier. Allez, 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, mes directeurs.
Oui, Papa Sibiti.
Mes salutations à vous tous et à M. Saf.
Voilà, salutations à vous.
La caution de 500 000, les gens discutent, moi je ne sais pas. Hein. Ce que certains ont dit, c'est vrai. Et pourquoi mettre une différence entre les hommes et les femmes? Cette politique-là n'est pas une bonne politique. Excusez-moi, parité. Si vous êtes dans une classe, vous êtes soit en terminale ou en première, ou bien à l'université, quand on donne un sujet, un devoir, c'est pour tout le monde. On ne va pas dire que la femme qui n'a pas eu ceci-là, il faut lui donner du point, du but, au lieu de. Quand on donne quelqu'un, non. Il faut taiser cette politique. Il faut que tout le monde. Nous soyons égaux. Nous soyons égaux, pardon. Et puis, hein, allô?
Oui, nous vous écoutons, oui, Papa Sibiti.
Pourquoi la différence? Il n'y a pas un monde pour les femmes et un monde pour les hommes. Quand on dit droit de l'homme, c'est droit des femmes aussi. Durée des femmes, durée de quoi. Et puis les politiciens, les blancs ou les pauvres, ils ont dit de mettre un but là, droit des États-Unis. On vous envoie de l'argent. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti. Le message est passé. 22, 21, 314. Un dernier auditeur, allô?
Oui, alors.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, le nom, c'est...
Justin Dimo Bobo, depuis Kanikopé.
Justin, depuis Kanikopé, allez-y.
Oui. Selon moi, la question de... 500 000, là, c'est peu, quoi.
on peut augmenter ça à 1 million. Merci beaucoup.
Merci Justin. Je pense que Justin c'est le dernier auditeur hein, pour le compte de cette émission de ce mercredi. Nous revenons en plateau. Et, Sylvestre, vous avez écouté les uns les autres se prononcer hein, sur les sujets débattus. J'espère que vous avez une réaction.
Non, j'ai pour habitude de ne pas commenter les commentaires des gens. Donc chacun est libre donc de penser. Vous voyez que certains sont pour, d'autres sont contre. C'est ça. C'est ce qui fonde donc une démocratie. Donc chacun tire donc le droit de son côté selon son analyse et ses réflexions. Donc on va pas, je crois qu'on va pas polémiquer là-dessus.
D'accord.
Je crois que le processus est lancé. Et donc il faudrait qu'on souhaite que ce soit clair, transparent et que. Et qu'à la fin, que le Togo soit grandi.
C'est l'essentiel. Estelle?
Pour faire court, en fait, nous avons une nouvelle chance qui s'offre à nous de redéployer les cartes avec les joutes électorales qui s'annoncent. Quand on met de côté le clanisme, les considérations personnelles, les intérêts personnels pour agir dans une unicité d'action et pour mettre en avant l'intérêt général. Ça nous permettrait vraiment de rebâtir le pays et avancer dans la même direction. Mmh. Bon, je ne sais pas si tu reviendras pour le carton.
Oui, si vous voulez, donner les cartons.
Encore un carton temps. Rouge à la CET, quoi. D'accord. Sincèrement. Mmh. Je comprends
vous,
vraiment.
Vous n'en pouvez plus.
Ouais.
Mmh. Alors oui, Sylvestre, carton.
Oui, carton rouge au bébé Siamois.
D'accord.
La CET, la TDE.
D'accord, merci. Alors Fabrice?
Non, moi je crois que, puisque l'émission est interactive, c'est pour permettre aux auditeurs également de dire leurs mots. Et quand ils le disent, moi je réponds. Et je voudrais m'adresser spécialement à Didier pour lui dire que c'est dommage qu'il pense que la moralité a forcément un lien avec l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui l'ont gagné honnêtement. Et il y a des gens qui ont l'argent qui l'ont gagné de façon malhonnête. Et il y a des gens aussi qui n'ont pas d'argent parce qu'ils sont paresseux. Ça aussi, ça existe. Et c'est pas parce que tu n'as pas d'argent, tu es paresseux, que tu es un paragon de vertu. Donc, lui qui pense, je ne sais pas s'il a de l'argent ou pas, s'il n'en a pas, qu'il ne pense pas que parce qu'il est pauvre, il n'a pas d'argent, qu'il a plus de morale à en donner aux autres. Non. Parce que quand je l'entends à l'antenne, je ne le connais pas, mais je fais une petite gymnastique. Sa moralité mérite encore un peu d'engrais, d'être transcendant.
Non, on ne va pas aller jusque-là.
Non, mon cher, ou alors tu ne m'invites plus.
Non, Fabrice.
C'est-à-dire, oui. Si, quand Fabrice, il le dit, je réponds. Moi, je réponds.
Oui, Fabrice,
il dit, sa moralité ne tient pas non plus. Parce que s'il pense que c'est parce qu'on a l'argent qu'on n'a pas la moralité, je lui dis qu'il y a des gens qui travaillent pour avoir honnêtement leur argent. Il y a aussi des gens qui n'en ont pas parce qu'ils sont paresseux. Et donc, faut pas qu'il pense que parce qu'il n'a pas d'argent ou il en a, il a plus de morale que d'autres. Non, il n'en
d'accord,
a pas.
D'accord.
Et je le dirai. Carton, oui, mercredi prochain, oui. Si tu m'invites, votre il parle, carton, je le reprends.
Votre carton.
Je n'ai pas de carton.
C'est le carton. Alors finalement, oui, Abbas.
Non, bon. Je pense que les uns et les autres ont dit ce qu'il fallait dire. Les auditeurs ont dit. Il y a certains qui disent même que les 500 000 francs, là, c'est peu. Il fallait aller à 1 million. L'autre, parce que quand vous allez dans les autres pays, pour ne pas avoir de n'importe quoi et de n'importe qui comme député à l'Assemblée nationale. Après tout, c'est les législateurs. Hein. On ne peut pas prendre quelqu'un qui ne sait même pas comment tenir un dossier à l'Assemblée nationale pour dire qu'il est député. Jamais. Ça ne se fait pas. Des candidatures opportunistes qu'on va nous présenter. Vous savez, le poste de député, je le disais tantôt, est un poste qui est le plus garanti. Ce poste-là est garanti. Si vous avez un mandat de 6 ans, avec ce que vous gagnez, si vous vous présentez à la banque pour faire un prêt, on vous l'accorde tout de suite. Parce que la banque a déjà une garantie. Vous avez l'argent. Et ce n'est pas comme un ministre, on peut renvoyer du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, demander 500 000 francs, je pense que ce n'est pas trop osé. Il faudrait respecter. C'est la loi. Et la loi de la République se respecte. Il faut qu'on la respecte au lieu de faire des polémiques inutiles.
Votre carton de fin d'émission ?
Non, pas de carton.
D'accord. Merci à vous, chers confrères. Sylvestre, merci à toi. SL, merci beaucoup. Fabrice, merci à toi d'être passé dans cette émission. Je vais continuer pas à t'inviter.
Si tu m'invites, moi, je vais parler. Hein.
Ah bah, merci à toi. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Géraud Akuta a assuré la mise en ligne. Et je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Au revoir.